Bienvenue au Compte de Trois, édition retour sur la fin de semaine de Clash of Champions et NXT TakeOver 31 en compagnie des deux gars, Tom et Will. Ça va bien, gars?
Ça va très bien.
Ouais, ça va.
On a un petit peu de retard, mais avec les études, on a décidé de prendre une petite semaine de repos. Mais on est frais et dispo, puis on est prêt pour commencer de parler par la grosse carte de Clash of Champions.
Ouais. On va commencer avec un match de pre-show. Cesaro et Nakamura contre Lucha House Party. Selon moi, c'est un excellent match de pre-show. Les deux équipes ont eu un très bon match à la hauteur de leur talent. Et ça a été une belle victoire pour Nakamura et César.
Oui, exact. On a continué dans cette direction-là
Ouais,
pour le
c'était.
règne. Puis aussi, on a continué à jouer la carte, la séparation tranquillement, pas vite, de Lucha House Party. Fait que j'ai bien aimé ça. C'était un bon match de kick-off. C'est sûr qu'on n'avait pas le choix de le mettre là à cause du nombre de matchs à la carte, là, mais c'était un bon match.
Après ça, on a eu, selon moi, le match à soirée. Jeff Hardy contre AJ Styles contre Sami Zayn pour le titre intercontinental dans un match d'échelle. PO, si tu dois en avoir beaucoup à dire sur ce match-là.
Ouais, écoute, après ce match-là, qui était le premier ou deuxième match de la soirée, je pense que le sacré son camp de chez nous. Moi, j'étais fâché. Non, plus sérieusement, écoute, bon, j'ai peut-être un petit parti pris pour Jeff, mais je veux dire, quel gros match d'échelle incroyable pour le titre. Notre Québécois qui sort avec la ceinture, Sami Zayn, je pense que je peux pas être déçu. Sincèrement, ça va être un candidat du match de l'année à David Devia, là, pour vrai, là. Ça a été un solide match. Ça a vraiment mis la map pour la carte, là. Le reste de la carte.
Ouais, moi, j'ai adoré l'utilisation des menottes dans le match. Quand Jeff Hardy s'est fait menotter l'oreille, s'est fait mettre les menottes à son oreille, c'est assez nice.
Ouais,
Bon,
après
la fin du
l'échelle.
match, en général, c'est une bonne fin.
Ouais, exact. Il y a Justice aussi qui était menotté, lui, après l'échelle, je pense, sous les cordes du Kojar. Les deux étaient menottés. Dans le fond, Sami Zayn.
Après l'échelle en bas.
Ouais, c'est ça. Sami Zayn, pour vrai, il a vraiment joué son rôle de top heel. Il y avait des rapports qui peut-être voulaient le mettre face, mais sérieux, très bonne décision d'avoir gardé heel. Pour vrai, c'est un excellent match. Sami Zayn, il sort un champion fort. J'ai hâte de voir la suite. AJ Styles et Jeff Hardy, d'après moi, la rivalité, elle ne sera pas finie là. Vu ce qui s'est passé dans le match, là, ça a été vraiment un très, 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 très bon match.
Oui, en effet, ça risque d'être un match année.
Ça va être un candidat du match d'année. D'ailleurs, Dave Meltzer a donné une note de 4,25 ou 4,50, je pense, pour ce match-là. C'est quand même une très bonne cote là, pour un.
Ça arrive pas souvent, ça, des 4,50 selon lui.
Non, à
Ouais.
WWE, ça arrive pas souvent, là.
Je pense qu'il y en a eu un dans l'année, 4,25 à WWE. Après ça, on a eu Asuka contre Zelina Vega pour le championnat féminin de Raw. Un match assez ordinaire.
Ça va avec la
C'était
concurrente.
un match sur le pre-show aussi.
En plus, c'était sur le kick-off, exact. C'est tu,
Non,
tu,
ça
tu...
pas, c'était pas
Oui,
sur le kick-off, c'était après le match d'échelle.
Non, il
Non,
était
non,
sur le pre-show,
c'est dans
ça,
le
là.
kick-off, ça.
Il avait été annoncé sur le pre-show.
En tout cas, bref, mais je veux dire, c'est le Naviga, c'est pas une mauvaise lutteuse. C'est très très bonne au micro. C'est une bonne manager. Je pense que ça montre la qualité de la force de la division féminine de la E. Quand t'es rendu à mettre un championnat sur le kick-off, avec une challenger comme ça, c'est assez bof. Mais ça a été un bon match pareil.
Dans un pay-per-view de même, c'est sûr que tu vas avoir des ceintures sur le kick-off, mais j'avoue que de mettre Zelina Vega dans un match de championnat, c'est un peu surprenant. En plus, que, tu sais, on a parlé dans l'autre podcast avec les Jobbers, elle n'a pas eu tant de build-up que ça. C'est pas comme si elle avait gagné un match à number one contender. Elle avait juste dit, moi, aller chercher ta ceinture.
Ouais, exact, puis
Ben, c'est un peu ce que Roman Reigns fait de temps en temps, tu
ouais.
sais. C'est juste qu'on n'a pas
La même
le même niveau.
appréciation pour Reigns puis Vegas. Mais Vegas a pas mal sorti. C'était clair et net et précis qu'elle sortait pas gagnante. Mais je veux dire, elle a montré qu'elle est capable d'être une tire une title picture, puis elle a pas gagné le titre, mais elle s'est pas chiée, là.
Ouais. Après ça, on a eu Apollo Crews contre un membre du Earthiness, dans ce que c'était Bobby Lashley, pour la ceinture US pour la je sais pas trop combien de fois. Un match que Lashley a remporté pour garder sa ceinture.
Heureusement.
Heureusement, très heureusement, oui, je suis d'accord. Encore là, un bon match, je veux dire, c'est du marcher puis recracher, mais quand ça marche, je veux dire, Bobby Lashley, depuis qu'il est avec MVP, c'est incroyable là, ce qu'il fait, là. C'est sa best run à eux depuis son retour, puis ça fait rappeler les années à Impact qui étaient les deux ensemble, puis que c'était écœurant, fait que je veux dire, tu le mets US Champ, c'est pas la meilleure ceinture présentement, c'est pas la meilleure ceinture à eux, c'est pas un Universal Champ, mais je veux dire, il fait la très bonne job là, pour être mid-card champ là, présentement, Bobby Lashley.
Ouais, ben, d'après moi, il sera pas champion du monde, mais Midcard Champ, c'est pas mal le plus haut qu'il faut aller pour le reste de sa run à WWE.
Fort probablement, c'est ça qui s'en vient pour lui, mais il fait bien son rôle, je trouve.
Ouais. Un autre match qu'on a vu plusieurs milliers de fois, Street Profit contre Andrade et Angel Garza pour les championnats tag team de Raw.
Encore là, c'est du recracher-mâcher, mais là, c'est pas parce que c'est excellent, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres équipes. Parce que toutes les autres équipes sont soit Raw Underground ou ils sont plus sous contrôle à la WWE. Fait que tu fais avec ce que tu as comme division de deux équipes, puis ça donne ça.
C'est ça. Mais par contre, j'avoue que rendu au 250e match, c'est difficile d'avoir de quoi nouveau, mais c'était quand même un bon match. J'ai quand même été agréablement surpris par ça.
Street Profits perdent un peu, surtout à la foule, là, mais c'est tout le temps être contre Andrade et Angel Garza, ça n'aide pas non plus.
Non, ouais. Ça c'est clair. Puis je veux dire, si Garza et Andrade devaient gagner les Raw Titles, ça devait être là. Puis là, ils ne l'ont pas fait. Déjà qu'on teasait une séparation de l'équipe, je pense que c'est rendu officiel. Je trouve ça plate parce que je les aimais bien, mais en même temps, c'est ça. Il est comme rendu trop tard, puis on n'a pas la décision de garder Street Profits. J'espère que ce ne sera plus le cas dans pas long. On sait qu'ils sont dans une rivalité avec Cesaro et Nakamura de Cross Brown. Au moment qu'on se parle, là, c'est plus le cas avec les changements du draft, mais je veux dire, à l'époque de Clash of Champions, c'était ça. J'ai hâte de voir que ça va mener. On sait que là, ils ne sont plus ensemble, Garza et Andrade. C'est malheureux parce qu'ils n'ont pas d'équipe et ils se parlent. Fait que, mais c'est un bon match, comme tu dis, Tom.
Ouais, mais Vince, il s'en sac un peu d'Andrade, ouais, comme que le draft t'a démontré.
Ouais, il s'en sac pas mal, même.
Du côté de SmackDown, on a eu droit à une situation un peu bizarre, puisque le match de Bayley contre Nikki Cross, qui était supposé arriver, a été annulé.
Ouais.
Pas annulé, mais Nikki Cross n'a pas pu se présenter, on peut dire ça comme ça.
Ouais, c'est un peu ça que je voulais dire. Par contre, on a eu droit à Bayley contre Asuka dans un match qui était.
Ouais. Encore Asuka deux fois sur la même carte en deux matchs.
Ça fait deux pay-per-views de suite.
T'as effectivement.
Qu'elle joue pour les deux titres, je veux dire, c'est la division féminine de la E. Encore là, ils n'ont pas de division par équipe, pas de division féminine. Ça fait dur.
Ouais. Mais ce coup-ci, Bayley a gagné avec un DQ, là.
Ouais.
Ça, c'est un finish pour protéger les deux, vu que c'était pas le match qui était supposé arriver.
C'est fait pas Bayley qui est pas Banks qui a return pour interrompre ce match-là?
Oui. Elle return pendant la célébration. Genre, ouais, après le match.
Avec son work de blessure de coup, mais ça lance la rivalité. D'ailleurs, on va en reparler plus tard, mais c'est une belle rivalité.
Ouais. Par contre, côté remplacement, il aurait pu avoir d'autres options à SmackDown. Il y avait Lacey Evans disponible, il y avait Alexa Bliss. Au lieu de prendre la championne de Raw que tu viens de voir deux matchs, il aurait pu prendre une autre lutteuse de SmackDown puis la mettre pour le titre. Ça aurait fait de quoi de différent.
Non, c'est sûr, mais tu sais, en même temps, il n'y avait pas de build-up s'il avait fait ça. Tu sais, Asuka était un peu dans l'histoire avec Banks et Bayley, avec je ne sais plus c'était quel pay-per-view, là, mais.
Je pense que c'est Summer. C'est SummerSlam, si je ne me trompe pas.
Il aurait pu.
Ouais, c'est ça. T'sais, elle était comme déjà un peu dans l'histoire.
Là. Il aurait pu aller chercher Carmella avec sa nouvelle gimmick. Il aurait pu la sortir plus tôt. Ça aurait pu être une fille de Retribution à la limite. Ça aurait pu être une fille d'NXT. Ça aurait pu être n'importe qui sur Vasca. Puis c'est ça. En même temps, ils n'ont pas non plus 50 000 personnes backstage à cause de la pandémie. Là. Fait que je pense qu'ils ont fait avec ce qu'il y avait comme fille. Puis c'est let's go. Là. Mais c'est pas le seul match qui était modifié. Parce qu'il y a eu le match de Women's Tag Team qui a été complètement annulé de la carte, ça.
Ah, ben, je crois pas. M'a pas chialé de ça. Vous connaissez tout mon amour pour Nia Jax?
Oui.
La belle Nia.
J'étais vraiment déçu.
J'étais assez déçu. Ça... Assez triste.
Ouais. Mais à fond, eux, ce match de Tag Team-là, pour closer la boucle, à boucle assez vite avec ce match-là, ça a été annulé à cause d'une blessure de Shayna Baszler, si j'ai bien lu. Fait que Nia Jax n'est pas venu lutter tout seul. Là. Déjà qu'elle est dangereuse dans le ring par deux contre s'il vous plaît. Là.
Oh.
Fait que, c'est ça. Fait que le match est annulé, mais il a été repris la semaine d'après, je pense, sur Raw puis, ou whatever. Là. Puis je veux dire, le match, les ceintures n'ont pas bougé de main, puis ça n'aurait probablement pas changé de main.
Non, ça,
dans, c'est ça.
Le contraire m'aurait étonné.
Ben, ouais. Surtout que c'était Riot Squad là, en face. Là. On n'aurait pas pu. C'est sûr que ça n'aurait pas été logique de faire changer de titre demain.
Exactement. Exactement.
On a eu droit après ça à Drew McIntyre contre Randy Orton dans un ambulance match pour le champion du WWE.
Très décevant.
Un match que William a adoré.
Pas du tout. Là, je trouvais que McIntyre avait perdu toute sa crédibilité avec le roll-up qu'il avait fait sur Orton. Là, se faire aider par toutes les légendes, là, non. Ça, c'est pire. Il n'y a plus de crédibilité là. C'est comme s'il ne pouvait pas gagner son match s'il ne se faisait pas aider. Là.
Ben, moi, j'ai bien aimé que tu sais, toutes les légendes que Orton avait pété parce que ça fait comme boucler la boucle sur la storyline. Là, par contre, le lendemain, il a comme été toutes sortes de pété avec des lunettes nocturnes en plus pendant que je suis au poker. Fait que là, je.
On a perdu des lunettes nocturnes qui se trouvaient après être des lunettes de travail.
Ouais, c'est assez.
Mais pour les gens qui ne se connaissent pas, ça peut passer, mais quand tu sais c'est quoi des lunettes de travail, tu sais que c'est pas ça. Là.
C'est assez imbécile, en effet.
Il y avait une mise en scène, là, tu voyais que c'était bien ensemble. Là, en vrai, ce qui est arrivé, c'est qu'Orton est tapé 3-4 fois à terre et puis se sont tous placés puis ça finit comme ça.
Ben, ouais. C'est de la lutte.
Ouais, mais ça allait être quand même.
Ça se montrait trop. Tu entendais les effets sonores et ça se voyait que c'était ça.
C'était... En effet, c'était très, très, très broche à foin comme segment. D'autant plus que là, le prochain pay-per-view, c'est Hell in a Cell qui s'en vient dans une semaine. Puis actuellement,
non, c'est. C'est plus loin que ça, me semble. C'est genre 2 semaines, 25 à peu près.
Bon, en tout cas, bref. Puis je veux dire, c'était encore Drew McIntyre puis Randy Orton pour la 48e fois. Puis là, le dernier match, on a fait perdre Randy Orton par le fait que, bon, il y a eu Big Show qui est venu attaquer Orton. Après ça, t'as eu Christian. Après ça, t'as eu Ric Flair. Après ça, t'as eu Shawn Michaels. Est-ce que j'ai-tu tout dit ou il en manque un autre? Ça, je veux dire, c'est... Comme Will a dit.
Je pense que
t'en as nommé assez.
Comme Will a dit, à quel point que tu mets le champion du monde vraiment pas fort quand c'est quatre légendes qui vont te faire gagner la victoire.
Mettons, s'il aurait pu, je sais pas, ça avait été Edge, là, je pense que ça aurait été moins pire.
Ah, Edge est supposé revenir dans pas d'ombre, ça.
Je pense que ça aurait été moins pire si tu te fasses intervenir Edge, puis au PDK, après ça, LNSL, c'est un triple threat. Mais là, toutes les légendes là, qui attaquent. Oui, ils attaquaient. Oui, c'est un bon motif. Mais est-ce que c'était nécessaire pendant un match de championnat? Pas tellement. Déjà que la stipulation était intéressante, un ambulance match. Tu vois pas tout le temps ça. Je trouve, honnêtement, c'était pas nécessaire
c'était
de faire ça.
C'était très bobof comme décision. C'est sûr que si t'as pas suivi l'actualité de la E, puis tu vois ça, tu fais comme « Ah, oh, cool, les légendes qui reviennent. » Mais en fait, la réalité, c'est que mais Orton, ils ont tout attaqué dans le bac, là, un après l'autre, tac, dans un mois de Monday Night Raw. Mais ça date, là. Je veux dire, on a fait le retour et la vengeance, genre deux pay-per-view en retard. Fait que je veux dire, autant que c'est brillant, de faire un retour sur ce qui s'est passé il y a deux mois, qu'autant que c'est lourd en disant « Ish, ça fait mal au ring de McIntyre, ça. »
C'est ça, puis ce serait le fun qu'il passe à quelque chose d'autre, puisque là, Orton, ça fait quoi, 3-4 pay-per-views à peu près qui se bat contre?
Ouais.
Ben, qui se bat contre, mais c'est pas vraiment une défaite légitime, fait qu'on voit ça.
Ouais.
Moi, je pense qu'au final, Orton va finir par gagner le titre, ce que je serais vraiment content, honnêtement. Mais tu sais, avec un bon match, là, LNSL, c'est un LNSL match, je pense, c'est ça?
Ouais, exact, dans une cage, ouais.
Fait que là, logiquement, on ne devrait pas avoir d'interférence. Fait que d'après moi, le changement de titre devrait se faire là.
On ne sait jamais. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans, Braun Strowman contre Roman Reigns. Et t'as Brock Lesnar qui s'en vient intervenir. Puis apparemment, que là, il était. Après un F5 chacun, il était plus capable de se battre. Ça finit en DQ.
Ouais, mais c'était pour Roman Reigns, ça ne me dérange pas. Mais tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il pourrait arriver n'importe quoi, mais je pense pas que Brock Lesnar revienne tout de suite. On sait que son contrat va très, très bien. Puis ça m'étonnera que Great Khali vienne. Je sais que sa carrière à Hollywood, elle va bien. Fait que d'après moi, il va rester avec ses films.
Moi, je veux juste vous dire un spoiler, guys. Orton, il va se faire écouter le match encore à LNSL, puis là, c'est par Nia Jax et les Ninjas. Nia défonce la cage, puis les Ninjas, ils viennent tous sauter sur Orton. Et voilà, McIntyre, il peut gagner par lui-même. C'est les légendes.
J'espère que les gens suivent les épisodes, parce que si quelqu'un rentre sur cet épisode-là, puis qu'il entend Nia Jax et les Ninjas, il ne comprendra pas le running gag. Mais...
Ouais, ils vont penser qu'on ne connaît pas Alice.
Ils vont avoir what the fuck. après ça, on était sur le match de, si je ne me trompe pas, Roman Reigns contre Jey Uso pour finir la carte.
Bon, on savait déjà que c'est qui gagnait.
Par contre, la fin de match a été intéressante.
Ben, j'étais surpris, moi. Moi, je m'attendais à ce que Jey Uso gagne. Avec sa nouvelle coupe longue, je pense que.
Là, il y a un petit problème technique parce que Will a dit, je pense, et avec sa nouvelle coupe de longueur, on pensait peut-être qu'il pourrait gagner.
Ouais, effectivement. En plus, on a eu droit à une belle récréation d'une scène de Rocky Cat.
Ouais, exactement.
À la fin du match.
Décris-nous ça, Tom.
Désolé, petit problème de zoom.
OK.
Ben dans le fond, on avait Jay, Jay ou Jimmy, je ne m'en rappelle plus. Un des deux, c'est lui qui se battait.
Jay.
Il était knock-out, fini. Puis là, tu avais Jimmy, son frère, qui s'occupait de lui, qui regardait Roman Reigns avec l'instinct du tueur. Pendant que Roman Reigns regarde, placé comme « Ah ouais, viens-t'en ». Ça, c'est pareil comme dans la scène de Rocky IV, où c'est que Apollo meurt dans le ring contre Ivan Drago, et que Rocky le regarde avec plein de haine dans les yeux, Ivan Drago, et sa setup de combat.
Je veux dire, pour ramener ça au monde de la lutte, Jey Uso n'a pas perdu le match parce que t'as apporté parce qu'il s'est fait piner. Il a perdu le match parce que Jimmy Uso a lancé la serviette. Il a fait fuck off, c'est fini. Célébration top hill de Roman Reigns, j'ai adoré. Là, d'ailleurs, il y a eu un match direct après SmackDown. Un match pour savoir c'était qui le concurrent pour Hell in a Cell de Roman Reigns. C'était 3 gars ou 4 gars, me semble. Il y avait Biggie là-dedans au départ. Il y avait Sheamus, me semble, là-dedans, je ne me trompe pas. AJ Styles. Il faudrait que tu m'aides, Tom, là. Il faudrait que tu m'aides. Bref, il y a eu un match de qualification pour le number one contender à Hell in a Cell contre Roman Reigns. Jey Uso. Attends, je me trompe-tu? C'est-tu la préparation pour Clash of Champions, là?
Ouais, d'après moi, tu te trompes avec.
OK.
Ouais, je pense.
Je me trompe. Excuse. Je veux dire... Bref, Jey Uso, sa rivalité avec Roman Reigns a continué pour Hell in a Cell. C'est rendu un Hell in a Cell I Quit match, le retour du I Quit match. Ça va être intéressant, ça. Je veux dire, la rivalité, elle a quand même pogné.
Ben, je veux dire, mettre un Hell in a Cell plus I Quit match ensemble, c'est pas intéressant. Hein.
Ça devient pas trop non plus.
Je veux dire, non, ça fait pas trop. Jay, il va quitter, puis après ça, on va avoir le droit à 3 pay-per-views avec Jimmy.
Ouais, c'est ça.
Classique booking d'AE.
Non, ça serait super, super, super bien pour vrai. De... Ça va être un très, 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 très bon match. C'est ça. J'ai hâte de voir ça. Un I Quit match en LNSL. La rivalité, elle a assez pognée pour les fans, justement, pour continuer. Je veux dire, ça allait quand même pogné.
Ouais.
Donc là, ça met fin à la carte de Clash, c'est ça?
Ouais, on a fait le tour.
Bon, fait que il y a eu. Ben, votre résultat sur 10?
Ben, toi, ah, ben, solide 6, même 5, 5-6.
Ah, oh, oui, pas plus.
Ah,
ouais, j'aurais été qu'un 6.5. C'était décevant, mais il y avait quand même des bons matchs qui rattrapaient le jour.
Moi, je vais me surprendre, je mets un 8.
Un 8, hey!
Malgré la défaite de Jeff Hardy, malgré que j'ai juste eu un title de changer, malgré qu'il y a eu deux title matchs de tout changer dernière seconde, je trouve que la carte a quand même apporté à des continuités d'histoire intéressantes. C'est ça, 8 sur 10. C'était quand même un très bon gala. C'était probablement le meilleur depuis Money in the Bank, je dirais.
Depuis qu'on a arrêté de voir tout le monde dans les VTV.
C'est ça.
Ce qui nous mène à NXT TakeOver 31.
Oui, le dimanche d'après.
Oui, très petite carte. 5 combats.
Ouais, comme tout est TakeOver. Ouais. C'est jamais des cartes de 5 heures non plus.
Non, exact. Rapide, efficace, puis très pertinent comme gars-là.
Effectivement, comme à chaque TakeOver. Ouais. Ça commence fort avec le match champion nord-américain Damon Priest contre Johnny Gargano.
Bon, je vais décrire le match en un seul mot, long. Mais le long, je le transforme en un autre mot intéressant.
Ouais.
Le match était long, mais il était quand même super bon. Monsieur TakeOver contre Damien Priest, c'est un bon défi pour un début de règne qui a été relevé avec brio. La fin du match a été très, très, très bien. Elle s'est très bien déroulée. Je veux dire, ça solidifie le championnat.
Effectivement. Puis je pense que j'ai dit avant, mais Gargano en heel, moi, je l'adore. Il fait son petit heel cocky, puis il finit tout le temps par en manger une. Puis c'est quand même plaisant.
Mais c'est ça le problème, c'est que si on le garde heel, il faudrait changer plusieurs aspects. Premièrement, son outfit, puis deuxièmement, sa musique qui fait pas très heel.
C'est plus heel que Rebel Heart, on se le cachera pas.
Ouais, c'est ça.
Non, c'est sûr, mais quand même. Moi, je ferais un changement là-dessus si on le gardait en tant qu'heel.
Ouais.
Mais ça a très bien commencé la carte, un match assez fort pour commencer.
Ouais. Après ça, on a eu droit à Kushida contre Velveteen Dream.
Qui est un match sponsorisé, sans qu'on le savait, par Back to the Future version 2020. Hein, parce que
ouais.
Marty, ouais, c'est Kushida, puis Docteur, je ne sais pas trop quoi.
Docteur Brown. Doc Brown, ça s'appelait le PO.
Dream avait une coupe de cheveux rendue gris à la Dr. Brown. Et t'avais Kushida qui est avec son gear habituel de Marty avec la montre puis les souliers puis blablabla. Match à schnout, pour pas dire à chier. Mike Frère, c'est le match qui fait que ça perd 2 étoiles sur mon total pour le pay-per-view. C'est assez désagréable comme match. Ça mène nulle part, ça tourne en rond. Match très bobof. Après ça, Kushida qui fait un genre de turn heel, pas turn heel, qui se venge babyface cette année. En continuant sa prise de soumission après la cloche. Kushida, c'est Kushida. Il n'y a pas de carrière. Ça va être un des prochains à se faire sacrer dehors. Malheureusement, c'est rien.
Mais non, Kushida, il est pas si mauvais. Puis là, de ce que je remarque à NXT, ils ont l'air de vouloir l'amener quelque part.
Ouais, il est un ninja avec Nia Jax.
Ah, écoute, on peut écouter ninja, là.
Ben, le peu, c'est qu'il fitterait là-dedans, hein, un ninja avec Akira Tozawa, là, ça serait... ça serait chic. C'est peut-être un nouveau Raw Tag Team, donc je sais pas, là.
Ah, je suis plus capable.
Mais non, moi non plus, je suis plus capable. Mais non, c'est ça, c'est un mauvais match, puis je sais pas ce que vous en avez pensé, là.
Bon, moi, j'ai pas aimé ça, là, j'ai bien aimé la thématique Back to the Future. Puis ouais. Kushida dans le ring, j'en aime pas. Il est solide.
Je commence mon turn heel. Non, excuse, vas-y, Will.
Si c'était pas de la thématique, ça aurait été pas mal moins intéressant. Là, c'est un match ordinaire.
C'est ça. Je commence mon turn heel officiellement en tant que podcasteur. Je veux dire, Tom, t'es un petit enfant avec une mentalité d'enfant de 15 ans. Donc, tu vas triper sur un match d'un calibre d'un enfant de 15 ans. Parce que si tu es un adulte, tu comprendrais que le match était pourri, Tom. Juste parce que t'as vu Marty puis Dr. Brown. Sinon... Monsieur Jello.
Ben, en général, Tom aime ce que Vince aime.
Ouais, ben c'est ça. Nous, pourquoi on l'appelle Monsieur Jello?
Comment?
Ok, on continue. C'est mon début de turn heel, Tom. Tu vas voir, Monsieur Jello va se faire ramasser. Ok. 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 Troisième match de la carte, Tom.
Ouais, un match pour un championnat de Cruiserweight. Swerve Scott contre Santos Escobar. Un bon match de Cruiserweight. Moi, j'ai bien aimé. C'est assez intéressant dans le ring. J'ai bien aimé ça.
Ouais, c'est un bon match. C'est un petit match de mid-card tranquille. Ça n'a pas volé à la carte, mais je veux dire, c'était quand même intéressant comme match.
Non, ouais. Mais quand même. Escobar, c'est un bon champion. Il faut le donner.
Ouais, ouais. C'est
je trouve que depuis qu'il est champion Cruiserweight, ça redonne un certain prestige au titre. Parce qu'avant, tu sais, c'était vraiment c'était le titre de bas.
Ouais, c'était le titre.
On le voyait pas souvent, puis c'est ça.
C'est le titre depuis de 205, puis personne n'écoutait ça, 205.
Ouais, c'est ça. D'où pourquoi on l'a envoyé à NXT.
Je pense sincèrement que c'est le meilleur champion Cruiserweight. Depuis
deuxième, ben, dépendant de ce que tu vas dire là.
Depuis Neville puis Enzo Amore, je pense que c'est le meilleur champion.
Ouais. Je suis d'accord avec Enzo par contre.
Ben moi par contre, j'avais bien aimé le tournoi Cruiserweight dans le temps de WrestleMania 34 à peu près. C'était bien fun. Moi j'ai bien aimé que dans ce match-là, il utilise beaucoup la frustration de Scott par rapport à Escobar, c'est un bon move de psychologie, d'après moi. Là.
Ouais, pour vrai, ouais. Pour vrai, ouais.
Après ça, on a eu droit au match de championnat féminin de NXT, Io Shirai contre Candice LeRae. Du coup, vous en avez pensé quoi, vous autres?
Un match prévisible, je dirais.
Imprévisible, certain, avec le fait que Gargano est devenu ref pendant 2 minutes, qui a tout fait pour que Candice a gagne. C'est plate parce que Candice n'a jamais été championne, puis je pense que ça n'arrivera probablement jamais. Là.
Ben, si ça arrive, pas de suite, par contre, je pense.
Parce qu'en tant que top babyface, ça gagne pas. En tant que top heel, son chum, il vient foutre. Hiro Shirai est dans la grosse merde, il est rendu ref avec un fast count là, assez rapide.
Oui.
Je trouve ça place, c'est une bonne lutteuse, une très bonne. C'est un vétéran, là, une vétérante, Candice. Mais encore là, c'est un bon match. Là. On a bien construit l'histoire et on continue bien l'histoire entre ces deux-là. Là.
Oui, j'ai bien aimé ça. Puis après le match, on a eu droit à deux retours. La championne, Toni Storm et Ember Moon. Ember Moon qu'on n'a pas vu depuis SummerSlam de l'année dernière.
Exact.
Très content.
Ouais, Toni Storm, son retour très content. Elle est
annoncée pour ce soir, je pense. Pour NXT.
Ouais. Elle a un match ce soir à NXT, d'ailleurs. Mais je veux dire, dans nos prédictions qu'on a faites avec les Jobbers, Ember Moon, elle faisait partie de ce qu'on disait, mais elle nous a surpris.
À la fin. Ben, c'est vrai que quand on a tossé le fait que c'était juste un gars, c'est vrai que c'était logique un peu.
Mais encore là, c'est une très, très belle acquisition pour la division féminine de NXT. Écoute, là, on parle de Finn Balor qui a return, Ember Moon qui return dans la division féminine. Puis là, suite au draft, on va en parler dans l'autre épisode, Andrade sera probablement son retour à NXT avec ce qu'il tease sur Twitter. Fait que je veux dire, la division de NXT déjà qui était solide, là, t'apportes des bons morceaux qui ont quitté trop tôt, là.
D'après moi, ils sont en train de scare up pour remonter dans la galette du mercredi soir.
Ben, ça arrête de sens. Ça arrête très, très, très de sens.
Ouais, par contre, on ne se cachera pas, ça va pas être Ember Moon qui va faire dépasser 1 million.
Non, c'est sûr, mais ça peut apporter un bon challenger pour le titre féminin.
Effectivement. Exactement. Par contre, à NXT, c'est pas, contrairement à Raw et SmackDown, des bons challengers, c'est pas ça qui manque.
Non, ça je le donne. Ce qui nous a mené, Tom, au main event de TakeOver.
Oui, le main event de Finn Balor contre Kyle O'Reilly. Un match que j'ai adoré, honnêtement. C'est un solide match technique. On a eu droit à une belle marque de respect à la fin quand Balor a aidé O'Reilly à se relever. On a aussi bien, selon moi, bien utilisé les interventions. Ça nous a fait guesser un peu sur le finish.
Ouais, c'est Ridge Holland hein, qui a co-attaqué.
Oui.
Ça commence une rivalité avec Adam Cole. Adam Cole est venu aider. Ridge Holland qui est venu contre. Mais là, Ridge Holland est blessé. Hein? C'est lui qui s'est pété la cheville ou le genou, je sais pas trop quoi, à NXT la semaine d'après.
Je sais pas, mais O'Reilly puis Balor se sont blessés aussi.
Ouais, O'Reilly puis le match, il sert. Ben là, il y a
un bon match.
Une fracture dans le mollet.
Il y a beaucoup de blessures.
Ouais. Balor, une fracture à mâchoire. Il a été opéré cette semaine d'ailleurs. O'Reilly, je ne peux pas dire sa blessure, mais je sais ce qui s'est blessé. J'ai entendu parler. Match de la soirée, ce match-là. Je veux dire, moi, tu rajoutes Timothy Thatcher dans ce match-là. Et ça aurait fait, là. Ça aurait défoncé les stats d'après moi de Dave Meltzer. Mais pour moi, c'est un très bon match. Mais c'est un dream match que j'aimerais savoir. Thatcher, O'Reilly, puis Baylor, ça serait écœurant.
Ah, certains seraient tout qu'un match de lutte.
J'ajouterais Dexter Lumis, moi, là-dedans.
D'ailleurs, Dexter Lumis, il y a un match à soir pour le North American. Bon, là, j'ai vu une... Ça n'a pas tant rapport dans le sujet de podcast, mais là, tu me lances ça, OK? Très, très brève parenthèse. Dexter Lumis, il y a un match pour le championnat à soir de North American. On le sait qu'il a été tassé du match de qualification à cause d'une blessure. Ouais. De TakeOver, je sais pas trop quoi, là. TakeOver SummerSlam.
TakeOver SummerSlam. Ou TakeOver 30, un des deux, en tout cas.
Exact. Ouais, et là, Dexter, la série, reprend les
autres. Ouais.
J'ai vu une théorie.
Vrai. Non, mais c'est vrai. Ça serait un addon, je pense.
Un addon que Dexter gagne un titre quand Dexter sort. Puis sachant que son personnage, c'est quasiment Dexter, fait que tu sais, dans la série.
Hey, c'est boiteux ton affaire.
Non, c'est boiteux. Tu vois, Tom, c'est parce que ça n'a pas été craché par Vince, tu l'acceptes pas. Mais...
C'est ça. Oh, hey, arrête-moi ça.
Monsieur Jello accepte pas les suppositions de Monsieur Hawaii. Là. Fait que arrête-toi.
Bon.
Fait que c'est ça. Un match que Balor a gagné son titre. Ben, retenu. Donc, aucun changement de titre sur TakeOver 31. Sur 10?
Ben, pour revenir à ce match-là, ouais, je pense que ça a prouvé que O'Reilly, c'est un très bon compétiteur en simple. Peut-être qu'il pourrait avoir un petit push en simple, comme Big E qui a présenté à SmackDown.
Ouais, exact. Je suis très d'accord. Même on a teasé la séparation d'Undisputed Era avec Cole puis O'Reilly qui serait face, puis Strong, puis Fish qui serait heel.
Honnêtement, moi je pense que ça ferait beaucoup trop de mal à Strong et Fish parce que ces gars-là, Strong surtout, c'est une machine dans le ring, mais il y a zéro charisme. Puis je pense que Cole est vraiment la machine du groupe. Parce que ces gars-là, c'est pas vraiment des gars de charisme. Fait que c'est Cole qui amène ça. Fait que si tu brises Undisputed Era, c'est un peu la fin pour ces trois gars-là.
Ouais. Ben, ouais. Ouais, peut-être. Ouais. À moins que tu les envoies Attack Ninja avec Nia Jax.
Ouais, t'as-tu fini?
Non, mais les ninjas, ils ont toujours du succès, Tom.
Ils sont partout, les ninjas. Retribution et Ninja, partout, Tom.
Ah, oui. Puis aussi, pour revenir sur ta parenthèse, d'après moi, Dexter Lumis aurait gagné le titre à soir. Parce que avant sa blessure, il était vraiment...
Il était censé gagner.
Il était vraiment hot. D'après, c'était mon pic pour gagner. Fait que, tu sais, j'aurais mis Damien Priest, mais Dexter Lumis...
Ça serait...
Il a trop un bon personnage pour finir dans l'eau card.
Ça serait
on va savoir
clair.
bientôt d'ailleurs. Le NXT commence dans 5 minutes. Là, fait que,
Exact. On devrait
ouais,
avoir le résultat
ça va
dans
être.
bientôt. À soir, c'est un spécial. Comme qu'on rappelle, on est 2 semaines en retard, mais je veux dire, à soir, c'est une édition All Elite avec tous les titres à la carte. Puis NXT, on est en train de faire ça. Là, il y a Tag Team qui va être défendu à soir. T'as North American, puis je serais même pas surpris que la fille Io Shirai a défendu son titre, là. Peut-être même contre Tony Storm. Peut-être en début de carte, on va voir ça. Là. Je sais pas.
Ah, j'aillerais pas ça. J'aillerais pas ça.
Ça serait
Ouais,
bien.
ça serait bon.
Fait que pour
Puis,
revenir sur. Ouais, excuse-moi.
ben, pour en revenir aux notes, justement, pour TakeOver, moi, je dirais avec un gros 7,5.
Ok, c'est ça, un 7,5, ok.
Moi, j'irais avec un bon 8. 8.
Un beau 8 Jell-O sur 10. Hein? Bon,
Ah!
16. Je te dis, je suis rendu ill, Tom, dans le podcast. OK, puis moi aussi, je vais avec un 8. Ça a été un 9 sur 10, mais à cause du match d'enfant, ça baisse.
Ouais, c'est ça. PO s'est rendu le Jim Cornette du compte de trois.
C'est exactement. PO Cornette.
Ouais.
Fait que ce qui met fin à l'édition de TakeOver et Clash of Champions. Fait que nous, on se revoit dans 35 secondes, mais le prochain épisode qui va être sur la draft et l'actualité de la E depuis Clash of Champions et TakeOver va sortir plus tard cette semaine.
Ouais.
Fait que bonne écoute!